Vous êtes sur RTL. Yves Calvi.
RTL Matin.
7h18. Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes député de La République En Marche de Paris, ancien secrétaire d'État chargé du numérique, et vous venez de rédiger une note parlementaire sur le traçage des données mobiles dans la lutte contre le coronavirus, notamment en vue du déconfinement bien entendu. Pensez-vous qu'une surveillance étatique est vraiment la solution pour sortir du confinement, Mounir Majoubi?
Alors justement, il faut faire attention au vocabulaire. Le mot « surveillance étatique », ça fait peur et ça traduit pas forcément la réalité technologique qui est derrière.
C'est autre chose.
Déjà, la première question qu'il faut se poser... Oui, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Oui.
Et il y a trois usages différents et trois types de façons dont les pays du monde les ont utilisés. Le premier, c'est celui des pratiques collectives. Vous l'avez tous vu, vous avez vu ces grandes cartographies qui nous montrent en France où sont les Français. Quand on dit que 30% des habitants, que l'île de Ré a augmenté de 30% son nombre d'habitants,
oui,
que plus de 10% des Franciliens sont partis. Mmh. Ça, c'est très utile parce que ça permet d'adapter les moyens de l'État géographiquement. Ensuite, il y a un deuxième usage qui est celui de l'identification des sujets contacts. Ça, c'est parce qu'on se rend compte que pour éviter le rebond, en stade 1 ou en stade 2, on va avoir besoin de pouvoir contacter plus rapidement les gens qui ont été au contact d'une personne malade.
Oui.
Et bien pour ça, il y a de très nombreux outils qui existent. Et la question technologique qu'on doit se poser, c'est si je mets en place cet outil, comment je m'assure que c'est bien au service de la santé et des libertés, et que les façons que je vais avoir de mettre en place ces outils ne vont pas venir atteindre à nos libertés fondamentales. Mais vous savez, l'éthique et le respect des libertés ne nous dit pas qu'il faut pas utiliser les technologies. Il nous dit qu'il faut faire attention.
Ah, avant
et
de
ça,
revenir,
ça va être très important.
Mais avant de revenir sur les questions, excusez-moi, éthiques et qui sont importantes, mais pardonnez-moi, pour nos auditeurs qui peut-être découvrent tout simplement cette notion et qui ont leur téléphone à la main avec eux toute la journée, peut-on rappeler en quelques mots et simplement de quel outil nous parlons, notre téléphone portable, mais comment l'utiliserait-on et en quoi serait-il efficace? Effectivement, même si vous venez de nous le rappeler, ça a déjà été utilisé à l'étranger. J'ai envie de dire les bases ou la brique de base pour l'utilisation du téléphone portable dans le déconfinement.
Alors on va dire la base, c'est qu'il y a deux usages. Le premier, c'est identifier les sujets contacts, c'est ce qu'on appelle le backtracking. C'est quand quelqu'un est testé positif et qu'il est avec le médecin et qu'on lui dit « Est-ce que vous pouvez me dire toutes les personnes avec qui vous avez été en contact ?»
Mm-hmm.
Aujourd'hui, comment ça marche? Alors aujourd'hui, ça marche pas parce qu'on est en stade 3. Donc en stade 3, vous savez, on ne demande plus à la personne avec qui elle a été en contact parce que la maladie est tellement répandue que l'objectif, c'est que tout le monde reste confiné. Mais en stade 1 et en stade 2, on demande à la personne. Le problème, c'est que c'est basé sur sa mémoire. Eh bien, avec une application, quelle que soit sa technologie, ça peut être ce qu'on appelle le Bluetooth, ça peut être le GPS, mais ça peut être d'autres technologies encore, on va recomposer tout son parcours des 15 derniers jours pour savoir qui elle a rencontré.
On sait qui,
et
effectivement,
là,
il a rencontré. D'accord.
Et ça dépend du type de technologie. Alors, vous avez une version qui est faite aujourd'hui à Singapour, une autre qui est développée en ce moment par les Américains, et qui installe sur votre téléphone une application qui va enregistrer toutes les personnes que vous rencontrez et tous les lieux où vous passez. Et derrière, ça va vous permettre, le jour où vous êtes diagnostiqué positif, de tout de suite répondre à votre médecin « Oui, voilà, je vous donne tout de suite la liste des personnes que j'ai rencontrées, il faut qu'elles soient contactées. » Bon, après, la question des libertés individuelles, elle se pose dans le cas où, eh bien, il n'y a pas de consentement de la personne.
Oui.
Il y a des pays, comme par exemple en Corée du Sud, où on ne vous demande pas votre avis. Si vous êtes testé positif, ou si vous revenez de l'étranger, on prend votre numéro de téléphone, on vous demande de rentrer en confinement chez vous, et on recompose et on vous demande de façon impérative de recomposer votre parcours. Ça, c'est un autre usage. C'est l'usage du contrôle des confinements individuels. C'est comme un bracelet électronique. C'est, on vous demande de rester chez vous, et si jamais vous sortez de chez vous, si on détecte que le téléphone est sorti de l'appartement, si on détecte que le téléphone n'est plus à l'adresse indiquée, alors on va lancer une alerte qui peut être soit de vous dire « identifiez-vous, prenez une photo » ou parfois même on envoie la police. Cet usage-là, il est surtout utilisé en ce moment à Taïwan, en Corée du Sud et dans d'autres pays asiatiques. Mais il est aussi utilisé en Pologne, et c'est ce que j'identifie dans la note. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça, culturellement, c'est acceptable? Bah moi aujourd'hui je me prononce pas. Moi en tant que député aujourd'hui je veux donner des outils à mes collègues de la commission des lois et des outils à mes collègues de la commission Covid. Et puis je veux que quand on débatte ce sujet, on fasse attention à bien faire la différence entre le tracking des sujets contacts et le contrôle du confinement à domicile et le type de technologie utilisée, parce que c'est trop facile de caricaturer. Il y a des gens qui vont vous dire il faut utiliser aucune technologie au nom des libertés individuelles, et vous avez en face d'eux des gens qui vous disent pour sauver une vie, eh bien on peut mettre de côté les libertés individuelles. Eh bien, la réalité est plus compliquée, elle est au milieu.
Mounir Majoubi, on a compris, on a un outil qui fonctionne. Il pose des questions que vous venez de soulever, on les a perçues aussi. Est-ce que ça doit se faire sur la base du volontariat ? J'ai envie de vous dire, si ça se fait sur la base du volontariat, on respecte en effet la liberté au sens le plus large du terme, mais on perd par définition l'efficacité, non ?
Alors, il y a les deux usages. Sur l'usage de l'identification des personnes contacts, ça, si on le fait sur le volontariat, quand vous regardez les derniers sondages, et si je vous pose la question à vous, la plupart des gens sont pour. Les gens veulent pouvoir aider les gens qui étaient à leur contact, notamment parce que ce sont leurs amis, leurs collègues et leurs familles. Donc la plupart des gens seront capables et voudront le faire. Notamment, et c'est ce que je dis dans la note, si on utilise des dispositifs qui protègent les libertés individuelles et les données personnelles de celui qui partage. Après, sur le troisième usage, celui du bracelet électronique virtuel, le contrôle du confinement, c'est d'utiliser une application pour être sûr que les personnes restent chez elles. Bon, bien ça, vous savez, le débat, il n'est pas technologique. Le débat, il est politique et global. C'est quelles sont les mesures qu'un État décide de mettre en place pour faire respecter le confinement. En Corée du Sud, c'est une peine de prison. En Pologne, c'est une amende supérieure à 6 000 euros. En France, c'est pour l'instant une amende de 135 euros. Et en cas de récidive, elle peut elle aussi être de plusieurs milliers d'euros, avec aussi des sanctions qui peuvent aller très loin. Eh bien, c'est cette question-là qu'on doit poser. Et là, je vous assure, c'est pas le numérique qu'il faut interroger. C'est la coercition de l'État et décider qu'est-ce qu'on considère comme juste dans le cadre d'une phase d'épidémie importante et grave et qui fait des morts, qui nous oblige à limiter les libertés individuelles de toute la population avec le confinement général. Est-ce qu'on accepte d'avoir des contrôle du confinement encore plus important, mais pour moins de monde? C'est ça la question.
Une toute dernière question, s'il vous plaît. Alors, question simple, réponse courte, je compte sur vous, nous sommes déjà en retard. Si le choix est fait, c'est pour quand celui de l'application à choisir et pour quand son utilisation dans ce cas-là?
Écoutez, ça c'est entre les mains de l'exécutif et Cédric O fait un travail exemplaire avec les membres du gouvernement aujourd'hui pour avancer sur le sujet. Nous, de notre côté, à l'Assemblée, on s'assure que toutes les conditions seront réunies au moment où ce choix sera fait. C'est pour ça que la commission des lois se réunit sur ce sujet dès demain, que la commission Covid aura tous les moyens en main pour pouvoir évaluer le travail. Mais donc maintenant, je compte sur les annonces du gouvernement pour avancer.
Donc ce doit être fait pour le tout début du déconfinement quand il deviendra officiel. Merci beaucoup Mounir Majoubi, bonne journée à vous et tout de suite on va retrouver notre brigade.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur RTL. RTL plus que jamais, toujours avec vous.
7h26, bonne journée à tous sur RTL. On va retrouver vos questions qui nous sont posées à notre brigade en permanence. Bonjour Annalise Bouissou.
Bonjour.
Question que les auditeurs sont nombreux à se poser, mais au fait, quand est-ce qu'on sort de la crise ?
Pour y répondre, on va peut-être réinventer en quelque sorte l'émission des chiffres et des lettres.
Ah.
Là, ce serait plutôt la version des économistes et des lettres, avec des lettres qui rapportent plus que d'autres, un Scrabble amélioré, où l'idéal, c'est d'obtenir un V ou un U, et où la lettre à éviter, c'est le W.
Alors, des chiffres et des lettres à la sauce économiste, mais quand même moins sympa qu'un bon vieux Scrabble des familles.
Oui, ces lettres servent en fait à schématiser les différentes sorties de crise possibles. Le scénario le plus optimiste, c'est le V. L'économie plonge et remonte très vite, un peu comme si vous faisiez un plouf dans une piscine, pour simplifier. Vous tombez, vous touchez le fond et vous remontez. Voyez la forme du V. Ça, c'est le mieux qui puisse nous arriver. On est confiné quelques semaines et tout reprend à la sortie. Les salariés au chômage partiel retrouvent leur travail et l'économie repart. Bon, mais même avec ce scénario, les pertes restent monumentales car moins d'activité, ça veut dire aussi moins de richesses produites. Même le V, le scénario le plus positif, prévoit une chute du PIB entre 5 et 10%. En clair, c'est un déficit budgétaire en dizaines, voire en centaines de milliards d'euros, même en admettant que la croissance reparte vite.
Vous nous le faites avec les lettres encore ?
Oui, je vous l'accorde. C'est côté lettres, je vous ai donc parlé du V, mais vous avez tout un tas de variantes. Le scénario en U, l'économie plonge, resterait un peu plus longtemps dans le rouge, mais remonterait quand même assez vite. Certains parlent aussi du J, vous voyez l'idée. Redémarrage un peu poussif, mais tout finit par rentrer dans l'ordre dans les années à venir. Et puis il y a deux courbes cauchemardesques, celle du W et du L.
C'est quoi le W? Ça peut faire peur quand on vous écoute.
Oui, imaginons un déconfinement trop rapide, une nouvelle épidémie à l'automne et de nouveau l'ordre de se calfeutrer durant des semaines. Un peu comme la réplique d'un tsunami, une deuxième vague où le scénario du W, là, ce serait une catastrophe avec des entreprises déjà fragilisées qui, pour beaucoup, ne s'en remettraient pas, des déficits abyssaux, des banques qui tiendraient peut-être ou pas, du chômage en cascade, enfin bref. Un W, l'économie qui fait des montagnes russes, ce scénario-là, tout le monde veut l'éviter car ça reviendrait à des années de disette. Ce cas de figure, l'Institut Montaigne l'a modélisé et il pourrait entraîner des taux de chômage de 20% à la fin du quinquennat. Pour rappel, le gouvernement visait 7% de chômage jusqu'à présent.
On termine avec la courbe en L, en quelques mots.
Oui, c'est une économie qui ne redémarre pas après avoir plongé, mais sans même avoir de petits rebonds de croissance, comme un encéphalogramme plat en quelque sorte. C'est un peu le scénario d'après-crise en 2008, où la France a mis près de 10 ans à remonter la pente. Ça veut dire qu'on voyait à peine le bout du tunnel et qu'on y replongerait. Bref, dans cette soupe aux lettres, pour éviter le W ou le L, même si le confinement doit durer un peu plus longtemps que prévu au départ, même si ce n'est pas facile de rester chez soi et pour personne, c'est une nécessité pour...